Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie Douce, ici Yvan Bugeaud. Aujourd'hui, je reçois des invités qui vont nous parler d'un projet photographique en rapport avec la santé mentale dans la chambre de l'esprit. À l'espresso et à l'espresso allongé, Pierre apporte son sujet. L'immortalité est-elle souhaitable? Notre invité en début de deuxième demi nous parle du nouveau numéro 988 qui est destiné aux crises en santé mentale et à la prévention du suicide. Tout ça à l'émission donc cette semaine. On commence en chanson avec Catherine Major. La chanson s'intitule « Moi non plus ». Bienvenue chez nous.
Écoutez Folie Douce, première émission radio francophone sur la planète démystifiant la santé mentale depuis 1991.
Je suis maintenant en compagnie de mes invités, Farah Elbizri. Bonjour Farah.
Bonjour.
Bienvenue à l'émission Folie Douce.
Merci.
Et également Julien Cadena. Bonjour Julien.
Bonjour, merci de nous recevoir.
Bien, ça me fait plaisir que vous soyez là parce que vous avez un beau projet à nous présenter. En fait, un projet qui est assez unique. Je ne crois pas que ça a déjà été fait. Il porte le nom de Dans la chambre de l'esprit. Oui. J'aimerais d'abord peut-être que Farah, toi tu es adjointe à la direction au Corps à Corps, organisation bien connue à Montréal au niveau de la santé mentale. Est-ce que tu peux nous mettre la table justement sur ce projet? Puis on va évidemment discuter avec vous deux parce que Julien est un peu aussi à la source de ce projet. Donc, comment tu peux nous le présenter, Farah?
En fait, le projet en tant que tel, j'ai contacté le photographe Julien.
Oui.
On pensait, il avait une idée, puis ça a été mis de côté à cause de la COVID.
OK.
C'est un projet, il va vous parler encore plus à propos de comment... l'objectif, c'est vraiment de lever le voile sur la stigmatisation. En cherchant santé mentale sur Internet, on a peu d'images là-dessus.
Ouais.
On a surtout des sketchs, on a surtout des images noires. Donc,
c'est souvent c'est associé ça. À des situations, c'est ça? Soit des histoires que quelqu'un a eu une crise, qui est arrivé une intervention policière.
Ouais. C'est vrai, on a rarement des portraits, en fait, des personnes, de vraies personnes. Donc,
alors que la santé mentale, ça fait partie de la déstigmatisation aussi, de l'information, de montrer que oui, il y a un côté noir, mais il y a beaucoup de côtés très positifs et très, très intéressants. Là.
Exactement.
Ouais.
Puis prendre une photo de quelqu'un, ça fait aussi, ça le rend hommage.
Ouais.
On a rarement la chance de prendre, de leur donner hommage au monde qui travaille dans la santé mentale.
Ouais.
Ils œuvrent tout le temps dans l'ombre.
Alors,
on a applaudi le monde qui travaille dans la santé publique pendant la COVID, mais on n'a jamais vraiment apprécié les efforts du monde qui travaille en santé mentale, que ce soit les intervenants, parce que ce projet-là est aussi prendre des photos pour les intervenants qui le souhaitent aussi, et aussi pour le monde qui ont des enjeux en santé mentale.
C'est ça, exactement.
Donc
le raccord est bien disposé par ça, parce que vous êtes déjà un regroupement qui représente presque une centaine d'organisations communautaires. Mm-hmm. Alors, Julien, de ton côté, tu as eu l'idée de ce... Tu es photographe de ton titre, c'est photographe.
Oui,
tu as eu l'idée de faire ça. Pourquoi est-ce que la santé mentale t'avait déjà... titiller un peu, est-ce que tu avais le goût de
En fait, j'ai aucun lien de près avec la santé mentale, mais le projet m'est venu à l'esprit durant la pandémie de la COVID.
On a parlé beaucoup, tu sais,
on parlait beaucoup des problèmes de santé mentale, mais du monde entier, pas que des personnes atteintes de problèmes de santé mentale.
Exactement.
Donc j'ai voulu m'intéresser à ces personnes-là qui, contrairement à moi, qui vit dans une... selon moi, une vie plutôt lisse, qui n'a aucun problème, qui vit en couple. Donc, je ne suis pas tout seul à la maison. Et je me demandais comment ces personnes qui vivent seules réagissent à la fermeture de tout, à l'empêchement de voir ses proches, les voisins. Donc, j'ai voulu m'en rapprocher. C'était très compliqué durant le Covid parce qu'on nous empêchait de voir... personne.
Et on ne savait jamais quand est-ce qu'on allait finalement avoir une ouverture.
Exactement.
C'est toujours un petit peu...
Donc j'ai contacté le raccord qui m'a tout de suite répondu en étant très, très positif par rapport à mon idée, qui m'a aidé à approcher quelques organismes qui aident les personnes atteintes de problèmes de santé mentaux.
Ouais.
Et donc j' ai lancé ce projet-là donc il y a 2 ou 3 ans, et puis ça a freiné à cause de la pandémie. Mais Farah m'a contacté il y a un an, un peu plus d'un an et demi, pour reprendre ce projet.
Quand ça a commencé, était un petit peu plus possible.
À réouvrir de partout,
Mais au départ, Farah disait, c'est ça, c'est des photos. Donc, le but, le projet lui-même, c'est que les gens prennent des photos, mais qui sans cacher la réalité, c'est que ça soit différent de ce qu'on peut retrouver dans des photos, dans des engins de recherche.
Le but, c'est de mettre en lumière ces personnes.
Ouais.
Pas de montrer leurs problèmes. C'est vraiment les prendre en photo comme vous et moi, comme des personnes vraiment, j'ai envie de dire normales, même si c'est pas forcément le bon mot.
Mm-hmm. Mais il n'y a pas de mot d'ordre. On ne dit pas qu'il faut que vous fassiez tel type de photo. C'est plus...
Non, c'est vraiment à eux, en fait, de décider. C'est ça, les participants viennent avec une histoire. On a tous une histoire.
Ouais.
Encore plus ceux qui ont des enjeux en santé mentale, que ce soit à propos de leur santé mentale, à propos de qu'est-ce qu'ils ont vécu selon le système de santé. Cette histoire-là, dans une photo, je pense que tu peux dire quelque chose. Donc, on donne... C'est quand même une chance de... Tu sais, t'en a qui ont décidé d'amener leur... une photo de leur compagnon que pendant comme 10 ans ou 20 ans, ils étaient là avec eux.
Ouais.
T'en a qui ont décidé de présenter leur talent t'en as une qui écrit à l'envers, donc elle a comme aussi décidé de peut-être écrire aussi à l'envers dans sa photo. Donc, mm-hmm. c'est vraiment eux. Ils sont très libres, puis ils se sentent, ben, les participants se sentent même, se sentaient à l'aise de justement créer leur propre portrait. Donc, c'est aussi de partager leur histoire dans ce portrait-là, et non pas juste c'est comme la photo. Là, c'est,
et combien de gens vous voulez toucher à la fin? Parce que c'est déjà en marche, puis il va y avoir, ultimement, ça va être montré aux gens là, plus tard, en 2023, je pense.
C'est ça, on va avoir entre 30 et 40 portraits.
OK. Ouais. Qui vont avoir été choisis un peu par vous, ben, pour avoir une diversité, j'imagine.
Ben, aussi, c'est ça. Le projet est photographié à l'argentique, donc
la bonne vieille méthode.
La bonne vieille méthode de la pellicule.
Ça prend du temps. Ouais.
Et il n'y avait aucune autre alternative, selon moi, pour faire ce projet-là, parce que ça permet de prendre notre temps, de se poser, de discuter avec les personnes, pas de cliquer sans cesse. J'ai des pellicules où je peux prendre 10 photos avec, donc j'ai 10 photos par personne. On prend notre temps, on discute, puis ça les permet de se mettre à l'aise et de souffler, puis de qu'on se regarde dans les yeux. Ça met vraiment un apaisement. Une sérénité pour eux et pour moi. Et puis, le but, c'est que je leur demande, montrez-vous d'une façon la plus naturelle possible.
Ouais.
Comment voulez-vous qu'on vous voit ? Il y en a qui me disent, moi, je suis une personne très souriante. Alors, je leur dis, montrez-moi votre plus beau sourire. Il y en a qui ne veulent même pas qu'on voit leur visage, parce que pour des questions de... Mais...
C'est normal aussi, ça peut...
Oui. Donc je leur dis, vous pouvez montrer votre main, on peut faire une photo de dos, il n'y a vraiment aucune barrière.
Mais l'avantage aussi de ce genre, de cette façon-là, un peu plus originale, là, au niveau de... On parle du numérique aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, on jette. Hein, une photo ne fait pas l'affaire, on jette. Oui. Alors que là, comme tu dis, je pense qu'il y a quelque chose, il y a une mise en scène, puis les gens se disent, écoute, je vais voir une des 10 qui va me plaire, ou je sais pas, mais c'est plus limité, puis à quelque part, c'est bien.
Plus comme moi, on voit pas la photo tout de suite.
Oui. Exactement.
Il y a le temps d'aller au laboratoire, faire développer la photo, que je récupère les négatifs, je scanne les images, et là, je découvre ce que j'ai fait.
Ouais.
Dernièrement, je viens juste de scanner des négatifs que j'ai récupérés au laboratoire, et puis j'ai pris comme une claque, parce que je m'attendais pas à voir une aussi belle photo, un aussi beau portrait.
C'est ça.
Il y a un grain particulier.
C'est en couleur ou en noir et blanc ou
Les deux. Ça dépend selon les lieux où on shoot, parce qu'on va dans les organismes, mais aussi dans les habitations.
OK.
S'il y a des personnes qui ne souhaitent pas se déplacer dans les organismes, on peut se déplacer chez eux.
Donc c'est vraiment, c'est ça, tu te déplaces, tu vas voir où vous vous déplacez, puis vous allez voir les gens, ils sont déjà au courant.
Oui, puis dans leur zone de confort aussi, ça c'est important à dire, parce que, puis c'est même, des fois c'est stressant là, d'avoir quelqu'un qui nous prend en photo, alors le fait que justement Julien prend son temps, le temps que justement il y a différents aspects à régler, là. Donc c'est ça, ils prennent leur temps, puis ils ont le temps d'être... C'est ça, de nous donner confiance, en fait.
Ouais.
Donc, puis ils sont déjà dans les organismes dans leur habitation, là, chez eux. Donc, ils nous montrent qu'est-ce qu'ils veulent nous montrer, en fait.
Exactement. Puis est-ce que la réponse a été... est-ce qu'il y avait une réticence au début, ou si la majorité des gens étaient d'accord?
Ben, quand on a fait notre... Avant de photographier, on est toujours allé dans chaque organisme en se présentant. Durant une heure ou deux, on se présentait, on parlait du projet. Il y avait beaucoup de personnes intéressées, très curieuses. Et beaucoup d'autres, enfin pas beaucoup, mais quelques autres qui étaient comme « Non, moi je suis pas down, je veux pas. » Puis la fois suivante où on est retourné dans l'organisme pour faire ces images, ces personnes qui étaient très réticentes ont vu comment on procédait.
Ouais.
Et d'un coup, ils se sont dit « Ok, moi je veux le faire aussi. »
Et on parle ici d'une première édition. J'imagine que c'est pas exclu qu'il y ait d'autres éditions. C'est que les gens vont voir le résultat et vont dire « Oh, bon,
absolument. »
C'est ça l'idée. C'est que des fois, les gens veulent juste être sûrs de ce qui se passe. Puis souvent, les gens ont été brusqués dans des situations, puis ils veulent pas... Il faut qu'il y ait une confiance qui s'établisse.
Et dès qu'on mentionne qu'ils ont le choix de pas vraiment montrer leur visage au complet, Julien a des beaux portraits là, qui montrent à chaque fois qu'on fait la première visite.
Un exemple, là,
que c'est ça, vous pouvez même prendre un voile justement et le mettre, vous pouvez comme que ça soit flou.
Ouais.
Donc c'est ça, c'est ça. Pour eux, ils s'encouragent plus que « Ok, bon, je vais participer ». Et ils finissent par justement montrer leur visage. Là, mais juste le fait que c'est libre à eux de choisir et de peut-être de se montrer, d'assumer, en fait.
Ouais.
C'est aussi, ça a un lien avec assumer leur, leurs problématiques ou leur état, leur journée.
C'est ça.
Puis on leur demande aussi d'écrire, en fait, à côté de leur photo, on leur demande de partager comme un... C'est qu'est-ce que vous voulez partager? C'est comme aussi un espace pour eux, pour... parce qu'il y aura la photo exposée à la Maison de la Culture,
ouais, ouais.
Mais juste à côté, il y aura ben, eux, qu'est-ce, comment eux ils perçoivent cette photo-là.
C'est intéressant.
Qu'est-ce qu'ils veulent raconter? Est-ce que c'est une...
Une anecdote, un poème. Soit en rapport avec la photo, soit en rapport avec leur vie. Oui, la photo,
soit
c'est
la santé mentale, soit la photographie, il y a plein de trucs.
Ouais. Donc, est-ce que Julien, ben, c'est ça, est-ce que ça te fait... Parce que j'imagine que Farah, tu étais déjà en contact avec le raccord, tu travailles au raccord, donc c'est sûr que tu es familière avec les problématiques de santé mentale, mais est-ce que Julien, par ce projet-là, t'as évolué ou t'as appris des choses au niveau de la santé mentale, certainement?
Absolument, absolument. On parle pas forcément de santé mentale quand on fait quand on est sur place avec eux. On parle vraiment du projet, on parle vraiment d'art, on parle vraiment de passer un bon moment. Mais j'arrive à voir, grâce aux personnes qui aux intervenants qui les aident sur place, tout le travail qu'ils font au quotidien. Selon leur calendrier, selon... Et dès que je rentre à la maison, je suis comme, ok, souffle un bon coup, la vie est belle, tout va bien, tu viens de passer une journée extraordinaire avec des gens extraordinaires qui, avec très peu, ont beaucoup à t'offrir. Ils se dévoilent, ils s'ouvrent, ils se mettent à nu devant toi pour, parce que tu leur montres qu'ils peuvent avoir confiance en toi. Donc, c'est vraiment... ça apporte beaucoup personnellement.
Et ça nous fait un propre sur soi-même. T'sais. On se dit, dans le fond, on est chanceux d'avoir une vie comme on a. La plupart des gens, on est très chanceux déjà là, d'être ici au Québec. Mais il reste à peu près une minute. C'est super intéressant. Juste rappeler peut-être l'endroit où il y a une exposition, je crois, de la mi-septembre à la fin octobre.
Absolument, oui. Donc, c'est ça, du 16 septembre au 29 octobre 2023.
Ça se passe à quelle maison de la culture?
À la Maison de la Culture Mercier.
Qui est où, physiquement? À
dans l'est d'Hochelaga. Alors, l'adresse exacte.
En cherchant la maison de la culture Mercier. Puis si on veut en savoir plus, en fait, j'imagine par le site du raccord, il va y avoir des. Selon où est-ce qu'on en est, puis si on veut en savoir plus.
Oui. C'est le raccordsm.org. Il y aura sûrement toutes les informations, mais aussi sur le site de la Maison de la Culture Mercier.
Oui.
Il y aura aussi les détails de l'exposition.
Et on cherche donc dans la Chambre de l'Esprit. C'est un beau nom, là. Dans la Chambre de l'Esprit, il y a plusieurs sens, c'est ça qui est intéressant. Merci beaucoup, Farah Bizri, d'avoir été des nôtres, et Julien Cadena, merci beaucoup.
Merci à vous.
Bonne continuation, en espérant même une autre édition ou d'autres éditions, alors c'est très intéressant.
En espérant vous voir en septembre.
Ben oui, absolument, on va aller voir ça. Merci.
Merci beaucoup.
Notre site web déborde de contenus originaux et variés au sujet de la santé mentale. Venez nous visiter à antenne.qc.ca, antenne.qc.ca.
C'est maintenant le moment de l'espresso. Alors Pierre, Laporte, ton sujet aujourd'hui, l'immortalité est-elle souhaitable?
Oui, une bonne question.
Grande question.
Oui, et en fait, le titre de l'article que j'ai trouvé sur Internet était « Si c'était possible, voudrions-nous vraiment être immortels? »
Mais on parle ici sûrement de l'immortalité sur Terre.
Oui,
parce
exactement.
Que,
oui.
Pour les chrétiens, souvent, bon, on va être immortel en principe,
oui,
au
oui,
ciel.
Oui, et dans plusieurs religions aussi.
Oui, aussi.
Alors, j'ai pris ça sur le site qui s'appelle pourlascience.fr, un site français. C'est écrit par une dame du nom de Hilary Rosner. Elle est journaliste intéressée par la science et l'environnement. Alors, cette Madame Rosner nous dit « Récemment, lors d'un mariage, j'ai interrogé des amis sur le concept d'immortalité. Imaginez que dès demain, vous puissiez numériser votre cerveau pour vivre pour toujours en tant qu'hybride homme-machine. Le feriez-vous? » ai-je demandé à un couple de surdiplômés, parents de deux petites filles. L'époux, un docteur en médecine de 42 ans, a répondu oui sans aucune hésitation. Il a expliqué que ses recherches actuelles ne porteront leurs fruits que dans quelques centaines d'années et il voudrait voir ce qu'il en adviendra. Il avait dit « J'aimerais aussi voir à quoi ressemblera le monde d'ici 10 000 ans », a-t-il précisé. Son épouse, quant à elle, une docteure en histoire de l'art de 39 ans, a également été sans équivoque, mais elle a dit « Hors de question ». La mort fait partie de la vie. Je veux savoir ce que ça fait de mourir. » Je me suis demandé si la décision de sa femme pourrait conduire le mari à se remettre en question. Mais pour des raisons diplomatiques, j'ai décidé de ne pas poursuivre la discussion.
Beaucoup de sagesse de sa part.
beaucoup de diplomatie.
Mais oui. La question, tu vas peut-être y venir, mais moi, la question, c'est est-ce qu'on va prolonger notre vie avec notre âme ou c'est juste un genre de copie de nous? C'est ça aussi la question. Là.
Oui, je sais pas question si d'éthique. Ça soulève toutes sortes de questions.
Exactement.
En fait. Alors, Mme Rosner poursuit en disant « Quoi qu'il en soit, cette réflexion dépasse le stade de simple banalité échangée en soirée. À en croire certains futurologues, nous finirons tôt ou tard à devoir répondre à ce genre de questions. Selon eux, nous nous changerons tout droit vers un monde post-biologique dans lequel la mort appartient au passé, ou tout du moins sous contrôle. La version la plus concrète de ce futur transcendant est celle imaginée par le chercheur et essayiste Ray Kurzweil. Celui-ci prédit que l'intelligence artificielle englobera bientôt toutes les connaissances et compétences humaines. La technologie de numérisation du cerveau à l'échelle nanométrique permettra à terme le transfert graduel de notre personnalité et de nos compétences vers une partie synthétique de notre intelligence. Pendant ce temps, aux soins de notre organisme, des millions de nanorobots détruiront les pathogènes, corrigeront les mutations de notre ADN, élimineront les toxines et réaliseront bien d'autres tâches pour améliorer notre condition physique. Résultat, nous serons capables de vivre indéfiniment sans vieillir. Ces nanorobots créeront une réalité virtuelle à partir de notre système nerveux. Nous vivrons de plus en plus dans le monde virtuel qui deviendra impossible à distinguer de l'univers que nous appelons la réalité.
Ouais. Ça fait travailler nos neurones, ouais. Millions de neurones.
Ouais. D'après les progrès effectués dans le domaine de la génétique, de la nanotechnologie et de la robotique, M. Ray Kurzweil estime la date de la singularité, soit le moment auquel l'intelligence synthétique dépassera l'intelligence humaine à tel point qu'elle produira une transformation profonde de nos capacités à l'année 2045.
Qui est demain, en fait.
Oui, c'est vraiment pas si loin. De nos jours, les avancées récentes dans le domaine algorithmique de l'apprentissage profond n'ont fait qu'encourager certains chantres de la singularité à continuer de croire en cette date. Toutefois, la plupart des scientifiques pensent que notre destin de cyborg est encore bien loin. Sebastian Sung, professeur à l'Institut de neurosciences de Princeton, pense que la numérisation du cerveau ne sera peut-être jamais possible. Le cerveau est constitué de 100 milliards de neurones, connectés entre eux par des synapses. L'ensemble de ces connexions forme le connectome, qui, selon certains neurologues, serait la clé de notre identité. Même avec les progrès technologiques prévus par Ray Kurzweil, cela représente une quantité gigantesque de connexions à cartographier et à numériser. De plus, le connectome pourrait n'être que le début. Les neurones peuvent aussi interagir en dehors des synapses et de telles connexions extrasynaptiques pourraient s'avérer essentielles pour le fonctionnement du cerveau. Si c'est le cas, comme Sebastian Sung le soutient, la numérisation d'un cerveau devrait non seulement inclure chaque connexion et chaque neurone, mais aussi chaque atome qui le constitue. La puissance de calcul nécessaire est complètement hors de portée. Alors,
et je pense que ça reste de la science-fiction et ça reste aussi de... Tu sais, on a toujours été fasciné par ça, l'immortalité, puis jusqu'à un certain point, les voyages dans le temps, là, mm-hmm. mais je pense que ça reste effectivement... Moi, je suis un peu d'accord avec les gens qui disent que ça, si ça arrive, ça va prendre beaucoup de temps et peut-être ça n'arrivera jamais.
Oui, ça va poser aussi tellement de questions d'éthique que ça en est incroyable.
Il faut savoir si on fait juste prolonger notre vie en réglant les problèmes de santé, tout ça, là, c'est correct, tu sais, mais est-ce qu'on devient une copie, un clone? Ça, c'est une autre histoire. Alors, on va y revenir plus tard à l'émission. Donc, l'immortalité est-elle souhaitable?
Retour à l'émission Folie douce, leader en santé mentale depuis 1991.
J'accueille maintenant mon invité, Matt Toshai, gestionnaire principal de la recherche stratégique et de la sensibilisation télécommunication au CRTC. Alors, bienvenue à Folie douce.
Merci beaucoup, Yvan.
Merci d'être là. On va parler d'un service qui s'en vient. Je trouvais ça important d'en parler à notre émission parce qu'on parle de santé mentale depuis longtemps puis ça a un lien très direct. C'est un nouveau numéro de téléphone 988 qui va être dédié aux crises de santé mentale et de prévention du suicide. C'est un peu comme le 911 parce que c'est vrai que quand quelqu'un a de la difficulté avec sa santé mentale, peut-être que c'est difficile de savoir à quel numéro on doit appeler. Puis ça, si je ne m'abuse, c'est un numéro aussi qui va être pan-canadien, n'est-ce pas?
C'est exact. Ça va être partout lancé en même temps, partout au Canada.
OK. Et donc, c'est ça, parlons-en donc, justement, c'est une nouvelle approche, puis ça va changer beaucoup de choses, mais comment vous pouvez nous présenter, disons, la situation? On va évidemment échanger là-dessus, mais comment, qu'est-ce que vous pourriez nous dire en commençant sur ce numéro-là?
En commençant, c'est vraiment, c'est pas ajouter des nouveaux services en santé mentale, mais c'est vraiment pour tisser des liens entre les services. Alors, pour quelqu'un qui est en besoin, qui est dans une situation de crise, c'est juste un numéro facile pour s'en souvenir. Ça va beaucoup faciliter les choses.
Oui, oui. Est-ce que c'est une demande qui est venue des autorités, du gouvernement? Comment, si on peut expliquer un peu la genèse de cette histoire-là, est-ce que ça date de longtemps? Est-ce que ce projet-là, ça fait longtemps qu'il est dans les cartons?
Ça fait assez longtemps que c'était une idée. Je sais, aux États-Unis, ils ont commencé à faire leurs recherches en 2016, 2017, et en 2018, eux, ils ont passé une loi là-dessus pour lancer, et leur service a lancé complètement en 2022. Alors, du côté du Canada, on fait toujours très attention à ce qui se passe chez nos voisins, et quand ils ont des bonnes idées, ça ne nous dérange pas aussi de suivre.
Ouais.
Ici, il y a eu une grosse pétition en 2020. Je pense qu'il y avait plus de 30 000 signatures. Ça a aussi, c'était quand même un intérêt pour le gouvernement canadien aussi. Alors, une motion a été passée. Et le CRTC, nous, on fait toujours nos recherches, on fait du suivi là-dessus. Et en 2021, on a lancé la consultation pour déterminer si un numéro national à 3 chiffres pour les services d'intervention en cas de crise et de prévention du suicide devrait être établi.
Ouais.
Et bon, ça s'est décidé et ça va être lancé cette année.
Parce que c'est le CRTC qui gère toutes les communications, dans le fond, la radiodiffusion, les télécommunications, puis c'est vous qui œuvrez à mettre en place ce numéro-là.
C'est vraiment le besoin pour le service, pour améliorer et faciliter l'accès aux services d'intervention en prévention du suicide et vraiment sauver des vies. Il y a vraiment des douzaines de services disponibles au pays avec des numéros et des chiffres. Par contre, quand une personne est dans une situation de crise, se rappeler du bon numéro ou trouver un numéro, ça peut être un défi de taille et peut l'empêcher d'obtenir l'aide dont elle aurait besoin de toute urgence. Alors, dès le 30 novembre 2023, Si vous êtes dans une situation de crise, vous avez des pensées noires, vous envisagez même possiblement le suicide, composez le 988 ou envoyez un texto au 988. Vous aurez de l'aide, quelqu'un à l'écoute. Entre-temps, d'autres services sont disponibles. Partout au Canada, Parlons suicide est disponible au 1-833-456-4566 en tout temps ou par texto entre 16h et minuit. Au Québec, nous avons aussi le 1-866-APPEL et un service de clavardage en ligne. Il y a aussi Jeunesse J'écoute, disponible en tout temps au 1-800-668-6868 ou par texto au 6-8-6-8-6-8.
Qui a décidé du numéro? Pourquoi 988?
Alors, il faut je l'admets, c'était l'idée des Américains. Eux, ils ont pris le numéro 988 pour lancer leur service. Et comme ça a été utilisé pour ça, on peut pas s'en servir comme numéro de téléphone, comme un indicatif régional. Okay. Parce qu'on partage les numéros de téléphone, on fait partie du même système. Alors, on s'est dit, on a fait une consultation là-dessus. Et bon, c'était une bonne idée d'utiliser le même numéro. Ça fait une certaine concordance avec les services qui vont être donnés aux États-Unis.
Oui, c'est un arrimage. De toute façon, quand on pense au 911, tu sais, on ne se pose pas la question qu'on soit en voyage aux États-Unis ou peu importe. Donc, c'est un peu une logique, tu sais, que des gens soient en voyage, puis ça se peut, là, tu sais, que des gens soient à l'étranger, puis sentent le besoin d'avoir de l'aide. Parce que c'est un peu ça l'idée. En appelant là, normalement, il faut dire que ce numéro-là va être mis en place, je crois, c'est en novembre, hein, cette année, 2023.
Exact, le 30 novembre.
Donc, les gens qui, une fois que le service va être là, on est à Montréal, on est à Toronto, on est à Québec, peu importe, on se sent pas bien, on a peut-être une envie ou peu importe, de passer à l'acte, de commettre malheureusement un suicide, qu'il y en a déjà trop à chaque jour. Donc, les gens vont quoi pouvoir appeler de leur téléphone ou carrément de n'importe quel téléphone en signalant ça, il va se passer quoi?
Alors, ça, c'est un numéro qui a été choisi par l'Agence de la santé publique et c'est le numéro qui est en fonction tout de suite. Alors, les appels vont être transférés au 1-833-456-4566.
Okay.
C'est un numéro qui fonctionne tout de suite, c'est Parlons suicide.
Et savez-vous, je ne sais pas si c'est de votre champ d'intérêt, mais savez-vous s'il y aura une campagne marketing pour faire connaître? Parce que, tu sais, on en parle ici, j'imagine qu'on va en parler plus la date va être proche, plus les gens vont en parler. Mais est-ce qu'il va y avoir, je ne sais pas, de l'affichage? Est-ce que, tu sais, quelqu'un qui est en crise ne veut pas chercher, puis peut-être qu'il n'a jamais lu les nouvelles, il n'a jamais écouté la radio, il n'a jamais lu les informations là-dessus, là, comment la population va être au courant de ce service-là?
Oui, dans les mois avant du lancement, en novembre de 2023, il va y avoir une campagne de sensibilisation pour vraiment partager le mot. Puis ça va avoir beaucoup de bénéfices aussi. Ça va aider juste, oui, pour s'en souvenir que c'est le nouveau chiffre, pour vraiment mettre ça dans la tête des gens. Mmh. Mais aussi, ça peut aussi aider à lutter contre la stigmatisation, parce que ça devient plus normal d'en parler. C'est un numéro d'urgence, comme 911, c'est 988. On peut en parler avec les gens, on peut partager ça, et ça va aider la situation au complet.
Oui. Et quel est le rôle, sans aller trop dans les détails, mais quel est le rôle du CRTC? Parce que j'imagine que ça implique que tous les fournisseurs doivent rendre accessible ce numéro-là, est-ce qu'il y a un grand suivi à faire? C'est pour ça que ça, quand même, parce que c'est décidé, le numéro décidé, l'objectif est là, tout ça. Mais pourquoi ça se fait seulement en novembre? Est-ce que c'est parce qu'il faut arrimer beaucoup de choses techniquement?
Oui, alors c'est toute une histoire là-dessus. Et bon, c'est pourquoi que ça a pris je pense, quoi, 4-5 années aux États-Unis pour mettre en fonction. Nous, on l'a fait plus rapidement parce qu'on avait on avait des synergies et on a aussi raccourci tous les délais qu'on pouvait. Alors, le premier point, c'est qu'on voudrait, idéalement, ce serait d'utiliser un numéro comme le 911 ou le 811 ou le 711, parce que ces numéros-là, ça, c'est des numéros N11, ils sont reconnus par le système téléphonique comme des numéros de téléphone autonomes et ils sont vraiment très, très utiles, mais malheureusement, ils sont tous utilisés. Alors, si on ferait une réaffectation, ça prendrait beaucoup de temps. Alors, bon, quoi faire? C'est d'utiliser un autre chiffre. Mais ça a d'autres problématiques, naturellement. Alors, il y a des places au pays qui sont tout de suite en mode de composition locale à 7 chiffres. Alors, il ne faut pas mettre, si on appelle son voisin, il ne faut pas mettre l'indicatif régional. Ça, ça cause un problème pour un numéro à 3 chiffres qui n'est pas un N11 parce que le système téléphonique attend 4 autres chiffres pour compléter un numéro de téléphone. Le système ne peut pas reconnaître 3 chiffres tout seul. Alors, il y a une conversion à faire. Puis ça, c'est Terre-Neuve-Labrador, Nouveau-Brunswick, le nord de l'Ontario et dans les territoires. Alors, ces zones, après qu'on a publié la décision, ils ont 9 mois pour effectuer la transition. Puis ça, cette période prend fin le 31 mai. Puis ça, c'est quand même un délai super accéléré parce que ça prend généralement 18 à 24 mois, voire plus.
Oui, c'est ça. Ben, effectivement, donc ça vous a peut-être servi aussi de l'expertise américaine jusqu'à certains points des États-Unis. Tu sais, si on passait à travers différents embûches, peut-être que vous avez pu justement les éviter ou en tout cas d'accélérer le processus de cette façon-là.
Absolument. Et songez à toute la recherche qu'ils ont fait, puis on a fait de la recherche de notre côté aussi, juste pour voir comment bien faire. Puis après ouais. ça, c'était vraiment de partager le point de vue au public pour avoir des commentaires. Parce que la méthode du CRTC, comme un tribunal administratif, c'est qu'il faut bâtir il faut partager ça avec le public pour avoir les points de vue afin ouais. de rendre des décisions.
Oui. Savez-vous, sans rentrer encore là dans les détails, savez-vous si ça existe ailleurs dans le monde, ce genre de service-là?
Oui, il y en a dans le monde et je pense que l'exemple la meilleure, c'est celle qu'on parle depuis tantôt, c'est le service américain, ouais. Qui est vraiment le 988 et fonctionne très bien. Oui, ils ont toujours des défis à surmonter, comme le volume d'appels qui a vraiment monté ouais. depuis le lancement du service. Ils font de la formation et ils mettent de l'argent parce que c'est extrêmement important.
Oui, je pense qu'il y a une importance à faire ça aussi pour éviter, parce que tu sais, les statistiques sont incroyables. Je pense qu'au Québec, c'est 3 suicides par jour. Au Canada, j'imagine, ça, quand on totalise tous les suicides. Alors, si on peut même éviter un par jour, c'est déjà une victoire, là, ou un par semaine. C'est toujours énorme. C'est toujours un suicide de trop, là, alors, d'avoir cette ligne-là. Est-ce que ça va servir seulement que pour la prévention du suicide, ou c'est quand même assez large, la fonction du numéro?
Alors, c'est vraiment... la prévention du suicide et les services exacts qui vont être donnés par le service vont être annoncés avec les communications. Alors ça va ressortir parce que c'est toujours en partenariat avec les provinces, avec les territoires, parce que c'est la santé. Alors c'est vraiment les provinces et les territoires qui sont compétents dans ce domaine.
Oui. Avez-vous, j'imagine que vous avez eu des sons de cloche puis un peu de... des retours là, des provinces puis des gens qui sont intéressés par le sujet. Est-ce que j'imagine que tout le monde est emballé par le projet parce que ça simplifie beaucoup, puis je pense que tout le monde veut la même chose, tout le monde veut prévenir le suicide. Est-ce que vous avez eu des bons commentaires, disons, des provinces et des intervenants dans ce domaine-là?
C'est pas juste des commentaires, c'est vraiment ils travaillent tous ensemble pour avoir un service qui va bien fonctionner, parce que même si c'est un numéro 1-800, par exemple au Québec, tout de suite les appels qui sont faits au 1-833-456-4566 sont acheminés au 1-866 appel, okay. Qui est le service québécois.
Ouais, ouais, c'est ça.
Ce service-là redirige les appels vers les régions pour avoir un répondant qui est aussi proche que possible, qui ouais. connaît bien les réalités de la région, de la municipalité.
Oui, c'est très complexe quand on voit ça avec toutes les régions et tous les intervenants, puis les bons intervenants, ceux qui sont justement dédiés à ce genre de problématiques-là. C'est intéressant. Il reste environ 30 secondes pour suivre justement la mise en place de ce service-là, avoir les meilleures nouvelles, les plus à jour. Qu'est-ce qu'on doit chercher si on cherche juste le numéro 988 CRTC? Est-ce que c'est assez ou qu'est-ce que vous pourriez nous donner comme information?
Oui, alors vous allez voir, bon, si vous êtes vraiment... vous voulez en savoir plus sur la réglementation, il y a la police réglementaire, sauf ça rentre en détail. Si vous voulez voir quelque chose rapidement, il y a un communiqué de presse sur le site web du CRTC. Vous avez juste à le rechercher.
Ouais.
Et bon, c'est un bon
travail.
Nous avons aussi beaucoup de communication, de publicité, et même les sites web des fournisseurs de télécommunications. On sait sur leur site web. Il y a toujours un petit lien sur le 988 et la prétention du suicide.
On suit ça avec intérêt. Merci beaucoup, Matt Touchet, d'avoir été avec nous. Vous êtes du CRTC. Merci pour ce nouveau service, le numéro 988. On va suivre ça et à une prochaine.
Merci beaucoup à vous pour l'opportunité d'en parler.
Ça nous fait plaisir. À la prochaine.
À la prochaine.
Au revoir.
Au revoir.
Folie douce, témoignages, entrevues d'experts, chroniques, toutes les facettes de la santé mentale en une seule émission.
Nous poursuivons au micro à l'espresso allongé et le sujet entamé plus tôt, l'immortalité est-elle souhaitable?
Oui, et c'est d'après un article que j'ai trouvé sur Internet qui s'appelle « Si c'était possible, voudrions-nous vraiment être immortels? » Et j'ai pris ça sur le site pourlascience.fr. un site français. Alors, c'est un article écrit par une dame du nom de Hilary Rosner, qui est journaliste intéressée par la science et l'environnement. Alors, elle continue son article en nous disant que la possibilité d'un futur robotisé, qu'il soit lointain ou peu plausible, soulève une inquiétude suffisamment importante pour que les philosophes en débattent sérieusement. Même si notre technologie échoue à accomplir la vision de M. Eric Kurzweil, l'augmentation de notre conscience et de notre corps pourrait nous rapprocher en partie de cet avenir, ce qui pose la question de savoir ce qui fait de nous des êtres humains. J'ai demandé à M. David Chalmers, philosophe rattaché à l'Université de New York, qui a écrit sur le moyen de numériser notre cerveau pour préserver notre identité, s'il pense qu'il aura l'opportunité d'accéder à la vie éternelle. Chalmers, âgé de 50 ans, a répondu que non. Mais pour lui, il est certain que ces problématiques vont devenir réelles à un moment ou à un autre d'ici les 100 prochaines années. Pour M. Ronald Sandler, expert en éthique de l'environnement et président du département de philosophie et de religion à l'Université de Northeastern à Boston, parler de notre futur de potentiel cyborg soulève beaucoup de questions. Se projeter dans un avenir lointain permet de mieux se questionner sur notre futur proche. S'il y a la moindre possibilité que nous puissions un jour choisir entre la mort et l'immortalité en tant que cyborg, il est peut-être plus sage d'y réfléchir dès aujourd'hui. En écartant le problème de la faisabilité, il est important de prendre le temps de se poser des questions plus fondamentales. Par exemple, est-il souhaitable de devenir des cyborgs? Si mon cerveau et ma conscience étaient téléchargés dans un cyborg, qui serais-je? Aimerais-je toujours ma famille et mes amis? Et eux m'aimeraient-ils encore? Au final, serais-je toujours un être humain?
Et est-ce que ses amis seraient toujours vivants? C'est notre histoire aussi.
Ça pose toutes sortes de questions. L'une des problématiques abordées par les philosophes est la façon dont nous nous traitons les uns les autres. La règle d'or ou éthique de réciprocité comme « traite les autres comme tu voudrais être traité » existerait-elle encore dans un monde post-humain? Il y a quelques années, Ronald Sandler soutenait que les humains améliorés maintiendraient une certaine obligation morale envers les humains normaux. Même si vous êtes amélioré, vous ne pouvez pas cesser de vous préoccuper d'autrui, explique-t-il, ce qui semble dur à contredire, mais aussi plus difficile encore à croire. D'autres philosophes s'intéressent à l'amélioration morale. L'usage de moyens médicaux ou biomédicaux pour améliorer nos principes moraux. Si nous sommes amenés à disposer d'une grande intelligence et d'un grand pouvoir, nous devrions nous assurer que le diable ne soit pas aux commandes. D'après les philosophes Julian Savulescu et Ingmar Bergson, nos connaissances scientifiques commence à nous permettre d'affecter directement les bases biologiques ou physiologiques de la motivation, que ce soit par l'usage de substances pharmaceutiques, de modifications génétiques ou des dispositifs qui affectent le cerveau et le processus d'apprentissage. Nous pourrions utiliser ces techniques pour surpasser les imperfections morales et psychologiques qui mettent en péril l'espèce humaine.
On commence à jouer pas mal dans le côté éthique, là, ça me fait peur. Là.
Oui, c'est vrai.
Ça fait peur, là, parce que si ça tombe dans des mauvaises mains. Là.
Oui. Alors, se pose également la question de la manière dont nous devrions traiter la planète. Quelle qu'en soit la forme, vivre éternellement changerait notre rapport à l'autre, mais aussi au reste du monde. Cela nous rendrait-il plus ou moins sensibles à l'environnement? La nature y gagnerait-elle quelque chose ou serait-ce le contraire? M. Ronald Sandler m'a fait remarquer que la singularité décrit un état final. Pour y parvenir, il faudrait vivre une révolution technologique de grande envergure et ne rien changer notre rapport à la nature plus rapidement et profondément que la technologie. Lorsque nous arrivons à numériser la conscience humaine au point de pouvoir aller et venir entre le monde réel et le monde virtuel, nous aurons déjà inventé tout le reste. Pour M. Ronald Sandler, en terminant, lorsque la singularité se produira, notre relation avec l'environnement aura déjà radicalement changé.
On invite les gens qui voudraient le lire au complet, en fait, ce que tu nous as lu, ça va être sur le site web, antenne.qc.ca, dans la section mentionnée à Folie douce. donc sur l'immortalité est-elle souhaitable. Merci Pierre.
Aimeriez réentendre nos émissions, entrevues et chroniques via YouTube? Pas de problème! Pour y accéder, visitez notre site web antenne.qc.ca. Antenne.qc.ca.
Quelques secondes avant de terminer ce rendez-vous. Alors, Pierre, on a entendu plusieurs chansons comme à notre habitude. De la première en début d'émission, Moi non plus.
Oui, de Catherine Major.
On a entendu Immaterial Girl.
De Marcy.
Dans la deuxième demi, Alléluia.
De Bertrand Belin.
Et à l'instant, Cœur léger.
De Andréane A. Mallette.
Merci beaucoup pour ton choix musical ainsi que ton travail en régie.
Ben, bienvenue, mon cher.
Merci aussi pour tes sujets, ton sujet dans les deux espressos. Donc, l'immortalité est-elle souhaitable? Beaucoup d'éthique, beaucoup de... Faut y réfléchir, mais je ne suis pas certain que ça va arriver demain
ça
la
fait
veille.
Peur.
Ça fait peur, mais je pense que ça reste du fantasme un peu. Mais merci pour ce sujet-là, c'est quand même intéressant. Nos invités en début d'émission, Farah El-Bizri et Julien Cadena, nous ont parlé d'un beau projet photographique en rapport avec la santé mentale qui s'intitule « Dans la chambre de l'esprit ». Notre invité en début de deuxième demi, Matt Touchaille, nous a mieux fait connaître le numéro 988, le nouveau numéro téléphonique et texto qui va servir aux crises en santé mentale et à la prévention du suicide à travers le pays au complet. Alors, c'était donc Folie douce cette semaine. C'est Yvan Bugeaud à l'animation. Bonne semaine à tous et à la prochaine. Au revoir.
Avec François Beauregard. De retour après la pause, nous avons le plaisir de recevoir, comme c'est notre habitude chaque semaine, Madame Esther Hardy. Bonjour.
Bonjour, François.
Avec Esther, nous faisons le tour du monde, hein, sans quitter notre ordi, sans quitter notre micro. Et ça nous permet de savoir un peu qu'est-ce qui se passe dans l'univers de l'accessibilité un peu partout dans le monde. Parfois, on apprend des choses étonnantes, d'autres qui peuvent nous être utiles. Et dans ce sens-là, on va commencer en Grande-Bretagne, au Royaume-Uni.
Voilà. En fait, oui, c'est une grande nouvelle, un nouvel espoir pour les personnes atteintes de paralysie grâce à un dispositif bio-hybride innovant. Donc, des chercheurs de l'Université de Cambridge, c'est aux États-Unis, n'est-ce pas?
Non, Harvard est près de Boston, mais c'est en vrai. Grande-Bretagne, c'est Oxford et Cambridge.
Cambridge, en oui. Angleterre. Donc, on a mis au point une nouvelle technique qui permet de reconnecter des neurones sectionnés en combinant des cellules souches avec des circuits électroniques souples pour créer un appareil bio-hybride.
Oh là là, là on parle vraiment, c'est de la science-fiction. Là, on parle
ouais, on
de
est rendu.
L'homme de 6 millions, puis après ça, Robocop.
Exactement, c'est fou, hein, mais c'est ça. Donc, ça pourrait aider aussi bien des personnes paralysées que celles qui ont subi une amputation ou qui portent une prothèse. Donc, ça a été déjà publié dans une revue Science Advance, là, ces résultats de recherche-là. En fait, c'est pour redonner fonction à un membre paralysé. Donc, il y a eu plusieurs techniques, plusieurs recherches qui ont été faites, mais on se heurtait continuellement à la même chose, c'est que dès qu'on fusionnait le nouvel appareil qu'on avait fabriqué au nerf endommagé, eh bien, le corps construisait des tissus cicatriciels.
Oui, c'est ça, pour un peu autour, comme pour habiller l'objet étranger.
Ce qui bloque le signal électrique. Donc, on a réussi enfin à dépasser cet obstacle-là en utilisant des cellules souches.
Des cellules souches pluripotentes induites,
et voilà.
Rien de moins. On va éviter Philippe Ducharme, mais non, sans blague, on va y arriver.
Chose, ouais.
Les cellules souches, on se rappelle, ce sont des cellules qui apparaissent au tout début de la vie de l'embryon. Ce sont des cellules qui ont la capacité de devenir ou de se spécialiser et éventuellement de devenir soit des cellules nerveuses, soit des cellules de tel ou tel organe, ainsi de suite. Alors, ce sont des cellules qui ont la capacité de devenir le type de cellules qui, dans ce cas-ci, seraient des cellules nerveuses.
Voilà. Donc, c'est un grand apport. Là, on est vraiment rendu. C'est sûr qu'à ce moment-ci, c'est encore sur des tests sur des souris. Hein,
oui, on a parlé d'elles plus tôt ce matin. Les souris, les lapins, oui. On a fait quelques blagues, malheureusement, à leur sujet. Mais c'est parce qu'on les apprécie beaucoup. Mais ça donne espoir qu'un jour, les humains, à notre tour, on pourrait bénéficier de cette technologie-là.
Exactement.
Ah, mais c'est magnifique. Parlant de techno, hein, on va passer de la Grande-Bretagne à la Bretagne.
Oui, en France.
On va pouvoir faire du voilier.
Hein, oui.
Voilà, tonnerre de Brest.
En fait, les personnes qui vivent avec une déficience visuelle peuvent naviguer avec le logiciel SARA. Donc, SARA, c'est pour Sail and Guide Autoguide. Donc, le logiciel en question, c'est un nouvel outil qui permet aux personnes vivant avec une déficience visuelle de naviguer accompagnées d'un skipper, par contre. C'est vraiment, il faut quand même avoir une autre personne, mais ils sont capables de le faire. Donc, c'est auditif, ça leur donne des indications de navigation qui sont essentielles. Donc, ça donne la possibilité de naviguer où on veut. C'est vraiment fabuleux.
Et quand on est en Bretagne, hein, naviguer, la mer, tout ça, ça fait partie de notre, notre vie. Alors, le principe consiste à traduire de manière orale des données diverses intégrées dans le logiciel. Une aide que Didier Jean-Alexis, le président du club Handivoile Brest, parce qu'il y a déjà du Handivoile, ça existe, et à Brest, c'est sûr que le club doit être assez actif, a déjà eu l'occasion d'expérimenter dans des conditions réelles lors d'une transmanche. Alors quand même, traverser la Manche,
oui, c'est quelque chose.
C'est pas une mer qui est toujours calme, ça. Hein, une épreuve organisée par le Yacht Club des Abers que Didier Jean-Alexis a disputé cette épreuve et a pu avoir donc un voilier qui a été manœuvré grâce à ce logiciel Sarah. Qui s'appelle SARA.
Ouais.
Là, je veux juste dire que SARA, Je trouve ça rigolo que ce soit l'acronyme de Sail and Guide avec un G autoguide.
Oui,
parce que je ne vois pas le R. Non. Mais ça, peut-être que c'est moi qui suis un peu pointilleux. Voilà.
Ou profane bon. De l'utilisation.
Ça pourrait s'appeler Saga, mais pourquoi Sarah? Enfin,
ouais, peut-être que Saga, ça pourrait provoquer certains doutes peut-être, sur peut-être le
chez
logiciel.
Peut-être chez les marins scandinaves, hein, il pourrait y avoir d'autres idées qui apparaissent.
C'est intéressant de savoir qu'il y a déjà 200 personnes qui ont utilisé ce logiciel-là.
D'accord. Donc, il est éprouvé.
Et voilà.
Ah, mais c'est fort. En Belgique.
En Belgique, des enseignants aident des proches ou des aidants proches ou des chefs scouts pourront désormais effectuer des actes infirmiers. Donc, d'après ce que je comprends de cette nouvelle, c'est qu'en Belgique, on n'avait pas le droit de le faire.
Ben donc, peut-être que ça se faisait, mais c'était, c'était en cachette, là.
En cachette, en dessous de la couverte, enfin.
Oui, mais ben, c'est ça. On peut, donc, c'est parce qu'il y a souvent des gestes médicaux
minimum,
que des enseignants ou des proches aidants. Les chefs scouts, ça, je trouve ça curieux comme inclusion, mais c'est peut-être, ça se comprend peut-être mieux dans un contexte en Belgique. Alors, ça permet en fait, que le gouvernement permet...
Oui,
donc,
maintenant.
Que les gens puissent poser certains gestes médicaux auprès de leur entourage qui en a besoin.
Voilà. C'est une avancée importante pour tous les patients qui nécessitent des soins réguliers. Donc, désormais, plus besoin de passer systématiquement par un infirmier. Les proches du patient pourront eux-mêmes effectuer certains soins et administrer certains traitements.
Alors, on peut penser, par exemple, à un enfant diabétique pour une piqûre d'insuline, replacer une sonde gastrique ou encore administrer de l'oxygène à une personne souffrant d'un cancer. Mais c'est pas comme quoi on lève la main puis on a le droit de le faire. Il y a quand même
une formation
oui. Comme aidant qualifié. Il faut avoir, je dirais... obtenu un certificat ou
une forme
peut-être
de
une reconnaissance. Oui.
C'est ça. Donc, pour être reconnu comme aidant qualifié, ça s'appelle comme ça. C'est vraiment ça. Habilité à réaliser certains actes infirmiers. Donc, il faudra néanmoins répondre à certains critères.
Oui, bien, c'est ça. Il faut qu'à ce moment-là, il y ait des questions que toujours une autorisation d'une infirmière, d'un infirmier, d'un médecin, d'une médecin, ces professionnels de la santé devront déterminer ce que l'aidant qualifié peut faire et combien de temps. Il y a peut-être des gens qui auront beaucoup de bonne volonté, mais qui ne seront peut-être pas capables de poser le geste de façon sécuritaire. Alors, le statut d'aidant qualifié est attribué pour le suivi d'un patient sur une période donnée.
Ouais.
D'accord. Ça va être quand même... Ça permet peut-être justement d'officialiser quelque chose qui avait... Et d'encadrer, pour plus de prudence, quelque chose qui existait déjà, de façon plus ou moins informelle, mais peut-être un peu dangereuse dans certains cas.
Tout à fait. C'est sûr qu'il y a un peu de controverse. Certains infirmiers infirmières, dont le président de la Fédération nationale des infirmières de Belgique, trouvent que c'est un acte qui est pris isolément, a souvent l'air simple, hein?
Oui.
Mais il est toujours il faut toujours réfléchir à toutes ces implications dans une vue globale. Comme vous dites, ça pourrait être dangereux, donc la qualification est un must, comme on
exact.
Dit.
Et j'en viens encore au fait que les gens qui se qualifient peuvent être des enseignants, des aidants proches ou des chefs scouts.
Ouais.
Mais j'ai pas lu plus loin, il n'y a pas été question de chef scout par
on
la suite.
On
n'en
parle pas plus précisément, effectivement.
Ah, ben alors, je m'excuse auprès du mouvement scoutisme belge. En Suisse, on a des problèmes de transport.
En fait, c'est que depuis, je pense que c'est 2002, voilà, la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les personnes handicapées, ça s'appelle le L&, dispose que les transports publics doivent être accessibles au plus tard à la fin 2023, donc dans quelques mois, et donc en principe être utilisables de manière autonome pour toutes les personnes handicapées. Donc, ce qu'on nous souligne, c'est que c'est loin d'être fait. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Donc, c'est définitif que ce ne sera pas le cas. Il y a beaucoup de...
C'était comme une loi pleine de bonne volonté, vertueuse,
oui.
Comme on en voit souvent, là, qui sont votées à grand renfort de pompe et de relations publiques. Mais après ça, ben, il faut mettre l'épaule à la roue. En anglais, on dirait « walk the talk ». Il faut que les choses se réalisent. Et donc, les objectifs, l'atteinte de transport accessible en Suisse, il y a un grave retard.
Oui, voilà. C'est que les bus et les voitures ferroviaires, ainsi que la navigation à passagers concessionnaires, on appelle ça comme ça là-bas, seront largement conformes à la L&D d'ici la fin 2023, mais pas tous. En fait, il y a environ un tiers des arrêts de bus qui sera conforme aux prescriptions, mais le tiers, c'est pas l'hôpital.
Le tiers, c'est pas les trois tiers.
Pas du tout, là.
Non, c'est ça,
donc,
exact.
Il y a encore beaucoup de travail à faire.
Donc, on espère pour toutes les personnes en situation de handicap en Suisse là, que ce retard soit rattrapé ou qu'au moins il y ait un mea culpa, hein, puis oui. Une volonté de réaliser tout cela dans un délai raisonnable. Si ce n'est pas 2023, le plus rapidement possible.
Oui, avec les budgets nécessaires pour y arriver et naturellement, les compétences, parce que malheureusement,
ah, oui, oui, aussi, on ne fait pas ça problème, comme n'importe comment. Puis, ouais. Et qu'il y ait aussi une écoute en amont, là, parce que là aussi, parfois, dans des situations comme celle-là, l'écoute en amont est déficiente. Et puis, on se retrouve avec des solutions qui, en réalité, ne sont pas tout à fait adaptées.
Voilà.
Ah là là. Parlant d'adaptation, du côté bonne nouvelle, et puis d'ailleurs, dans une émission prochainement, nous allons parler de handi-tourisme. Et aujourd'hui, quand même, les tours de la cathédrale de Reims
s'ouvrent aux personnes.
Sont maintenant accessibles aux personnes qui ont une déficience visuelle.
Oui, c'est vraiment très intéressant, en fait. Si on parle du cri du faucon Cressel, le bruit du carillon, les rafales de vent qui s'engouffrent dans les cathédrales de Tours de Reims vont maintenant être accessibles à tous ceux qui vont visiter. Donc, si on a une déficience visuelle, si on a ça, ben c'est possible de faire c'est une première, en fait, à Reims. Ça vient juste de commencer.
Oui, c'est le 29 mars, là.
C'est
la semaine dernière.
C'était mercredi dernier qu'on a fait une première visite programmée. Donc, c'est l'occasion pour l'association partenaire de dévoiler le lancement de son application qui s'appelle L'œil sonore. dédiée aux personnes malvoyantes. Donc, c'est fabuleux, là. Cette opération est aussi l'occasion de mettre l'accent sur le lancement dimanche le 2 avril, donc c'était hier, d'une nouvelle application dédiée aux personnes vivant avec un déficit visuel, porté depuis quelques années par le regard au bout des doigts. Donc, ça s'appelle comme ça.
Ah, c'est joli!
C'est un projet qui voit enfin le jour grâce à un code QR installé sur la porte de la cathédrale. Donc, on peut tout simplement accéder gratuitement à ce parcours en audio-description baptisé « L'œil sonore de la cathédrale Notre-Dame de Reims ».
Une maquette tactile en braille, hein, accessible, et 18 pastilles sonores. Et ce qui est bien aussi, c'est que les 250 marches qu'il faut gravir pour se rendre au sommet de la tour ou d'une des tours de la cathédrale de Reims, elles vont être accessibles. Et pour, je l'avoue, avoir souvent arpenté, j'ai pas le vertige pour ces trucs-là. Et chaque fois, je vois une tour, que ce soit le Duomo à Florence ou la cathédrale Saint-Paul à Londres, j'ai tendance, chaque fois que je sais qu'il y a un truc qui est vraiment haut et ancien, je veux aller en haut.
Tu veux aller voir.
Bon, oui, c'est ça. Au moins avoir l'impression là, d'être au-dessus de la ville. Et je peux vous dire que d'habitude, l'escalier pour s'y rendre, là, c'est pas évident, parce que c'est étroit, c'est médiéval. Alors, les marches sont usées, elles penchent dans le mauvais sens, c'est étroit, il y a comme une petite rampe en métal qu'on cherche désespérément. Et puis, évidemment, il y a tout un autobus de touristes qui viennent de finir leur visite et qui redescendent dans l'autre sens.
Voilà.
Alors, d'être capable de monter 250 marches dans une tour médiévale, en toute sécurité, là, c'est j'apprécie l'effort qui a été déployé à Reims. Bravo.
Bravo. D'ailleurs, il y a une dame qui s'appelle Aurore Soyer qui, pour elle, les résultats sont très enthousiasmants. Elle dit qu'elle voit flou, puis que c'est un problème de distance et de relief, son problème visuel, mais qu'elle arrivait à ressentir le volume et l'ambiance. Ah. Elle dit que le guide a fait toucher les poutres et qu'elle est arrivée à ressentir le volume et... Ouais, voilà, je me répète.
L'espace, oui, tout à fait, parce que vous savez que les personnes handicapées visuelles sont... C'est un sens qui existe chez chacun, mais quand on est attentif à la pression de l'air, on peut mieux apprécier la dimension des pièces ou l'étroitesse des corridors, ainsi de suite.
C'est intéressant.
Voilà. Faites un cours de mobilité, orientation avec votre canne blanche, Madame Hardy, vous verrez.
Oui, on peut essayer
c'est
ça.
Étonnant. On parle de tourisme accessible et là, c'est l'Allemagne qui nous envoie nous appelle, si je peux dire.
Oui, en fait, l'Allemagne est une des destinations les plus accessibles d'Europe pour les personnes vivant avec un handicap. Personnellement, j'étais pas du tout au courant. Je trouve ça fabuleux. Donc, on sait que l'Allemagne est connue pour son riche patrimoine culturel, ses paysages à couper le souffle et ses infrastructures de classe mondiale. Puis toutefois, personne ne savait, ou en tout cas peu de gens pouvaient savoir, que l'Allemagne est aussi l'une des destinations les plus accessibles d'Europe pour les personnes avec un handicap. Donc, c'est l'Office national allemand du tourisme qui
nous
invite.
Oui, mais on peut imaginer qu'ils ont peut-être... ils prêchent pour leur paroisse, mais c'est tant mieux quand même de savoir que l'Allemagne a pris des mesures importantes pour garantir que le séjour sera confortable et agréable à tous les visiteurs, et ça en mettant l'emphase sur l'accessibilité et l'inclusion.
Voilà, donc il y a des rampes d'accès pour les fauteuils roulants et des audioguides, de l'interprétation dans le langage des signes aux hébergements accessibles, s'assurer que chaque individu puisse découvrir la beauté de notre pays est pour nous un engagement, disait Anja Brock-Jahn, j'espère dire la prononciation comme il faut là, directrice de l'ONAT, cet organisme dont on vient de parler, qui est au Canada.
Donc, ben, bravo, et pour avoir visité l'Allemagne à quelques reprises, je dois dire que oui, c'est un pays extraordinaire, et d'être capable de le visiter d'une manière accessible et tout, là, c'est... ça vaut la peine, ça vaut le déplacement, voilà, exact. En parlant de déplacement, on se retrouve après la pause. De retour au pays, Esther, et il est vrai que nous nous sommes manqués de nos rendez-vous.
Oui, hein? Voilà.
On a fait faux bond, voilà, donc ça fait déjà 2 semaines, mais il est important de dire que dans la deuxième quinzaine de mars, un nouveau rapport déposé par Karen Hogan.
Oui, qui indique en fait que Via Rail et l'Administration canadienne de la Sûreté du transport aérien, l'ACSTA, ont apporté des améliorations à l'accessibilité au cours des dernières années, mais de sérieuses lacunes subsistent toujours. Donc, le 2/3 des handicapés ont affronté des obstacles dans les trains et les avions.
Et Mme Hogan, rappelons-le, c'est la vérificatrice générale. Là.
Voilà.
Alors, il faut croire que lorsqu'elle pointe du doigt un organisme de juridiction fédérale, il devrait y avoir... un peu de redressement de la situation.
Oui. En fait, elle souligne pour les années 2019 et 2020. J'ai l'impression que l'information se limitait là.
Oui, elle est au compte-gouttes.
Oui, voilà. Mais néanmoins, ils ont fait une consultation auprès des voyageurs concernés et des lacunes dans l'application des règles par les agences responsables sont encore là, en fait, estime la vérificatrice générale.
Et ce qui est vraiment navrant, c'est que la vérificatrice générale note par ailleurs dans son rapport que les sites Internet pour la planification et la réservation de voyages, là, que ce soit celui de VIA ou des lignes des compagnies aériennes, n'étaient pas entièrement accessibles. Hein? Alors, si c'est déjà difficile de mettre le pied dans le train, imaginez-vous si on n'a pas encore de billets pour y accéder.
Ouais, c'est
voilà. Alors ça, c'est à suivre. C'est un gros truc, hein, faire avancer un dossier comme celui-là auprès d'organismes ou de sociétés énormes. Là.
Oui, d'ailleurs, l'objectif d'accessibilité, c'est pour 2040, d'ici 2040.
Oui. Bon, ben...
Ils ont le temps, on espère qu'ils vont aller plus rapidement, là, que les choses vont enfin bouger.
Parlant d'inclusion... Non, une belle expérience. Là, on parle de choses énormes, là, comme le réseau ferroviaire ou le transport aérien, mais il y a des belles petites choses qui se passent sur le terrain aussi, à Repentigny.
À Repentigny, des élèves du Croc Touski relèvent le défi de la table des chefs. En fait, le Croc Touski, comme on sait, Touski veut dire qu'on ramasse tout ce qui reste dans le frigo. Voilà. En fait, ils préparent des mets et les redonne aux étudiants de l'école. Mais il faut savoir que c'est des élèves en déficience intellectuelle du centre La Croisée, avec un sourire aux lèvres, le cœur à la main, et le groupe d'enseignants, naturellement, qui participent à cette initiative de la Tablée des chefs, les cuisines solidaires édition relève pour une quatrième année.
Et c'est un projet qui rassemble, parce qu'on parle de la table des chefs, là, 700 participants au Québec, c'est majoritairement des classes en cuisine ou en hôtellerie, qui donnent de leur temps et de leur qualification et de leurs habiletés pour, avec Cuisine solidaire, être capable de préparer des plats pour des personnes dans leur communauté qui peuvent avoir des difficultés socio-économiques, itinérance, ainsi de suite. Alors, non seulement ces plats vont servir, mais parce qu'on parle de 1000 repas destinés à des gens dans le besoin de la communauté de Repentigny. Et donc, c'est Mme Derry et sa classe d'élèves depuis 4 ans participent à cette activité-là. Alors, on peut imaginer combien de sourires à la fois au-dessus du chaudron et au-dessus de l'assiette, hein, une fois servi, tout ça a pu créer. Alors, on leur souhaite longue vie.
Ce qu'ils veulent, en fait, c'est donner au suivant. Puis franchement, c'est un bel apport. Hein? On peut le saluer.
Parlant de pauvreté et d'handicap, il y a une dîner-causerie qui aura lieu le 12 avril. Le 12 avril, c'est mercredi. La semaine prochaine, le mouvement Handicap sans pauvreté va organiser effectivement un dîner gratuit de midi à 13 heures à l'hôtel Alt. Ça, c'est au 1200 avenue Germain-des-Prés.
À
Québec. Voilà, merci, vous avez bien fait de le dire. Et ça va être un moment pour avoir une discussion qui va porter sur la mobilisation des organisations et des alliés pour faire avancer le projet de loi C-22, ce projet qui doit se tendre pour la création d'une prestation canadienne pour les personnes en situation de handicap. On sait que le projet a été déposé, a passé l'étape de la Chambre des communes. Dans le dernier budget fédéral, il y a d'ailleurs, je pense, 25 millions de dollars qui ont été mis de côté pour financer la création de la structure administrative de cette prestation. Donc, on commence à être proche du but. Et ce dîner-causerie va permettre aux gens de la communauté d'exprimer leurs besoins. Parce que de créer une prestation, c'est une chose, mais il est important de demander de façon précise un peu l'encadrement et les paramètres qu'on veut qu'ils balisent cette mesure du gouvernement fédéral. Parce que, laissés à eux-mêmes, parfois, le législateur peut faire des erreurs administratives qui sont par la suite difficiles à corriger.
Tout à fait. Puis, ces gens veulent... on veut faire sortir les personnes en situation d'handicap et de pauvreté. Oui. Hein? Le but est là.
Pour créer une consultation en amont, comme on en a déjà parlé.
Voilà.
Voilà. INCA, ils font plein de choses pour les jeunes.
Ah oui, vraiment, c'est très innovant. En fait, premièrement, il y a un concours de création littéraire en braille.
Oh!
Donc, qui vient de commencer dès le 1er avril et qui se terminera le 31 mai. On peut le faire à distance, il n'y a aucun problème. Donc, c'est un programme pour les enfants et les jeunes. C'est un appel aux écrivains en herbe, en braille.
Voilà. Donc on peut soumettre une courte nouvelle, un essai ou un poème sur le sujet de notre choix, français ou en anglais, d'ici le 31 mai. Les inscriptions doivent également être accompagnées d'un formulaire, parce que là, il faut quand même démontrer que, qu'on se qualifie, là. Oui. On peut comprendre que il faut être jeune, un, puis il faut avoir un handicap visuel. Si vous voulez avoir plus de détails, vous pouvez communiquer avec Karen Brophy cnib.ca. Parlant de jeux, une trousse de Lego.
Oui, on va donner des trousses de Lego Braille pour intervenants et les institutions du 17 avril au 26 juin. Pardon. Donc, du mois d'avril jusqu'au mois de juin, la Fondation INCA offrira des trousses de Lego Braille gratuites en français et en anglais. Bon. En fait, c'est réservé aux institutions, aux organismes et aux intervenants travaillant avec les personnes vivant avec la perte d'une vision, naturellement. Donc, on doit encore une fois communiquer avec M. David Trudel-Bergamo.
Au 514-934-4622, poste 245, pour avoir sa trousse de Lego Braille. Les jeunes peuvent vivre certaines angoisses à l'adolescence, surtout quand dans un contexte d'handicap visuel et toutes les étapes sociales et la vie parfois compliquée. Qui est celle d'être un adolescent. Il va y avoir un groupe de discussion qui s'appelle le groupe « Comment ça va? »
Oui, en fait, ce seront des rencontres, encore une fois, à distance pour les 13-17 ans, du 18 avril au 23 mai, soit les mardis soirs de 18h30 à 20h, sur la plateforme vidéoconférence Zoom, où est-ce qu'on va justement pouvoir discuter. En fait, ça donne la chance de rencontrer d'autres personnes de votre âge qui vivent des situations similaires et qui désirent partager, apprendre et se construire une vie qui leur ressemble.
Voilà, donc, alors ça, c'est tous les mardis soirs. Hein?
Voilà.
Et on a jusqu'au 14 avril pour s'y inscrire. Un peu plus dans le même sens, il y a un groupe de soutien pour les jeunes adultes de 18 à 29 ans
qui
débute le 19 avril.
Jusqu'au 24 mai, naturellement, c'est encore à distance. C'est le même type de soutien. On n'a qu'à communiquer avec David Trudel-Bergamo à nouveau pour pouvoir s'inscrire. Et c'est lui, en fait, qui fera l'animation du 19 avril jusqu'au 24 mai, les mercredis soirs de 18h30 à 20h. Donc, bon. C'est pour les 18 à 29 ans.
Bien, ça, c'est important parce que souvent, surtout au moment d'un diagnostic de perte de vision, là, c'est... On est submergé par une vague d'angoisse. Ben Esther, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci à Mathieu Tessier dans son aquarium. Voilà, ça ressemble à un aquarium. Mais il ne tourne pas en rond, croyez-moi. Et Claire Guérin, notre recherchiste qui prépare tout ça chaque semaine. François Beauregard qui vous dit dans deux semaines. Ah, encore deux semaines. Lundi de Pâques. On se reparle le 17.